Salut Charline.
Je suis contente, on reçoit Virginie Efira.
Oh, génial, elle est jolie.
Oui, ouais. C'est surtout une super actrice.
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est une super actrice.
Non, mais au César en plus.
Trop forte. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'au début, elle était animatrice.
C'est vrai que Denise Fabre, elle n'a jamais eu de César, finalement.
C'est vrai ça, elle était animatrice au départ. Et puis.
Peut-être que toi, du coup, un jour.
Enfin, comment les gens ils vont savoir que je suis une super bonne actrice.
Je sais pas, moi, Virginie Efira, elle a dû jouer dans des sketchs, des trucs comme ça.
Ah ouais, bon alors je suis foutue.
Mais non, mais toi aussi, tu joues dans des sketchs.
Ah ouais, c'est bien ça le problème. Virginie, elle a des beaux rôles. Elle peut montrer toute sa palette d'actrices. Puis moi,
c'est pareil.
Moi, je joue dans des sketchs écrits par vous deux.
Oh,
je fais toujours la coconne. Salut les amis.
Ouais, c'est pas très sympa, franchement.
Attends, et Virginie, elle a des partenaires à la hauteur. Hein. Vincent Lacoste, Pierre Ninet, alors que moi. Moi, c'est vous.
Ça va, attends.
Je suis obligée de baisser mon intensité de jeu pour qu'on n'entende pas trop la différence avec vous.
C'est pas très gentil pour les garçons.
Mais en même temps, c'est pas tout à fait faux.
Ouais, si c'est comme ça, très bien.
Tu pars.
Non, je vais te proposer un truc à la Haneke. Donc, on reprend cette conf de rédac. Tu rentres, t'es déprimé, y a personne, tu te rends compte de la solitude de ton personnage et tu meurs.
Voilà un beau rôle.
On y va. Allez, on refait.
C'est parti, c'est parti.
Action.
Salut les amis. Il y a personne. Ça fait 12 ans qu'il y a personne. Mais c'est pas grave. Il reste du café froid, un vieux journal. Je vais chercher des sujets. On va parler de l'affaire Bérégovoy. C'est bien pour une émission drôle, un suicide. C'est toujours drôle, un suicide. Tiens, ici, j'ai avalé la boîte de calmants pour voir. Ça dérange quelqu'un ? Bah non, il n'y a personne. Adieu, monde cruel.
Coupé !
Elle était bien cette conf de rédac. Enfin, moi, je pense que la Virginie, elle vit ses dernières belles années parce que j'arrive là. Bon, ils sont où les autres ?
Ils ont trouvé ça nul, ils sont tous partis. C'est de la merde !
Horrible !
Nul ! En fait, c'est le public qui n'est pas à la hauteur. Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui ne rallie pas l'actualité mais qui fait alliance avec elle, nuance. Et voici les trois sujets qu'on va soutenir à condition de moraliser l'usage de la blague. Pourquoi détestons-nous autant les politiques ? Deux professeurs associés à Sciences Po répondent à cette question dans un livre. Car il faut trouver une réponse pour essayer d'en sortir. Et eux, les politiques, est-ce qu'ils savent qu'on les déteste ?
Ils me haïssent, celui-là !
Enfin, la bonne, vous n'auriez peut-être pas dû !
Elle me hait aussi ! Oh. Elle m'empêche toujours de faire mon lit ! Elle me hait pas !
Quand on analyse les cheveux des écolos qui mangent bio, on découvre un taux élevé de perturbateurs endocriniens. Isabelle Autissier, qui passe la moitié de sa vie en mer, ou José Bové à la campagne, eux aussi sont intoxiqués. Comment vous avez pris la nouvelle, José ? Alors ça y est, la Légion étrangère est installée dans le Larzac. Et maintenant les contestataires filent droit. Il n'y en a plus un qui moufte. Les militaires ont relancé le commerce, repeuplé les écoles. Et il ne reste plus guère que trois papis pour entretenir le foyer de la contestation.
Faites l'amour, pas la guerre. C'est votre slogan, n'est-ce pas ?
Oui. Et si je foutais mon poing sur votre gueule ?
Et je suis accompagnée de celui pour qui tout ce qui est étranger à l'armée est légion. Oui, ça ne veut rien dire, mais vous aurez reconnu Alex Vizorek.
Mais bien sûr, c'est absurde comme vous. Bonjour Charline Vadonaker. Et autour de la table, l'équipe type. Comme un bon jeudi, 17h20, l'homme qui peut vous faire aimer la musicalité de n'importe quoi, de la voix suave d'une chanteuse éthiopienne aux flatulences d'un pachyderme kényan, c'est André Manoukian, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, pas de pachyderme kényan ni de joueur de Cyril Afghan. Une magnifique blonde qui joue du piano et qui chante divinement bien, elle s'appelle Diana
Nicole
Kral.
Nicole
Croisille. Diana Kral.
J'ai entendu. 17h30, celui qui creuse la France pour y trouver des diamants, mais il tombe souvent sur des truffes. Et pas que le champignon, c'est Guillaume Meurice.
Oh,
bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je suis allé au forum des travaux publics ce matin pour voir comment et surtout par qui sont utilisés nos impôts.
On est des gens bien.
Voilà, quand il y a besoin de préciser, souvent c'est un petit peu louche. Hein,
et 17h40, elle, c'est un loup, une tourterelle, c'est un animal étonnant. Moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle. Et cependant, c'est une lady, elle. Du Didier Barbolivien pour vous, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Alex.
Vous aimez la poésie, non ?
Oui.
De quoi on veut parler ?
De labyrinthe.
Très bien.
C'est pas pour cette année, Alex.
Non, j'ai l'impression.
Je vous le dis. Voici celle qui va présider notre assemblée internationale. Attention.
Les présidentes à chaque fois. Donc.
En plus, il faut changer le monde. Vous débutez à la télévision belge, où vous présentez la Star Academy, puis la Nouvelle Star, avant que M6 ne vienne vous débaucher pour présenter la Nouvelle Star française. Vous entamez ensuite votre carrière d'actrice, L'amour c'est mieux à deux, avec Clovis Cornillac, ou La chance de ma vie avec avec François-Xavier de Maison. Et en 2013, vous êtes la tête d'affiche de 20 ans d'écart aux côtés de Pierre Niney. Au théâtre, vous avez interprété Tennessee Williams ou René de Obaldia. En septembre, vous avez incarné Victoria au cinéma, rôle pour lequel vous êtes nommée au César. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Virginie Fira.
Ouais. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Virginie Fira.
Bonjour Charline.
Bienvenue chez nous.
Bonjour à tous.
Enfin chez eux, puisqu'on est tous belges. Hein.
Oui. Dis donc, alors, vous avez joué René de Obaldia?
Mais je viens de l'apprendre.
Ah,
non, mais il y a comme ça des choses qui se disent dans votre bio. Non, mais,
mais non.
Ah, si, je l'ai fait.
Ah, oui, oui, c'est vrai.
Pour ses beaux yeux, pour ses
exactement.
Yeux, au théâtre d'Ytre.
Ça vous a marqué
en 2005,
on
vient régional.
En 2005.
En 2005, tout à fait.
Voilà, voilà. Écoutez, j'ai des dossiers.
Vanhoenacker, c'est pas le genre à se tromper.
Attention. Hein. Virginie Efira, le DVD de Victoria de Justine Trier vient de sortir. Ah non, il est disponible. Ah ben si, le 18 janvier 2017.
C'est passé ça.
Bah voilà, j'ai la date, donc déjà il est déjà disponible. Vous pourrez le voir peut-être avant les Césars qui ont lieu vendredi, si je ne m'abuse.
Bah faut se grouiller quoi.
Voilà, ou après d'ailleurs, hein, ces DVD, c'est pour toute la vie. Victoria, on va rappeler, c'est une jeune avocate et une jeune maman célibataire qui se lance dans la défense d'un ami qui est dans une situation absolument désespérée mais impossible à sauver. Il est accusé de tentative de meurtre et le seul témoin c'est un chien. Vous devez vous en occuper. Alors elle embauche un ex-dealer comme assistant et sa vie devient un cataclysme. Victoria est perclue de névrose et elle s'en sort quand même. Alors, c'est un rôle qui vous vaut d'être nommé au César. C'est donc forcément pas tout à fait une comédie, si vous êtes nommé au César. Est-ce qu'il y a une part de tragédie qui magnifie le rôle? Parce qu'on rit énormément, mais il n'y a pas que ça dans Victoria. C'est quelque chose de subtil, de sur le fil.
Il y a que dans les contradictions, quelque chose de beau peut se jouer, quoi. Que ce soit dans la vie, dans un personnage, au cinéma ou en dehors. Donc, ce que Justine a pu faire en utilisant la comédie, c'est de parler justement de sujets très durs et en pouvant y mettre une distance, ma foi, élégante et juste. C'est-à-dire, toutes les grandes comédies, enfin, elles ont toujours deux pendant, quoi. Enfin, on rit de choses tragiques en permanence. Voilà.
Vous êtes débordée, vous êtes prise par la vie, vous êtes avec des gosses, avec des amants, avec un vrai bordel incroyable, et puis obligée d'interviewer un chien à un moment donné. Mais vous le faites vachement bien. Donc il y a aussi de la rédemption quand même dans cette affaire-là.
En tout cas, le film ne dit pas qu'il y a un endroit de grande nuisance et où on est encombré par les problèmes, et un endroit où par l'amour tout serait solutionné, il ne serait que beau. Ça raconte que c'est quand même souvent la merde, que tout ça est très complexe, c'est que c'est difficile de s'en sortir, qu'est-ce qu'un sentiment, etc. Mais que ça vaut le coup quand même, qu'il y a parfois des éclats de beauté, quoi. Enfin voilà. Et puis c'est surtout le portrait d'une femme extrêmement cérébrale qui ne sait plus ce qu'est un élan, quoi. Et qui à la fin passe d'essayer, que c'est une avocate, d'avoir la parole exacte tout le temps, la bonne réponse, à l'idée de quelque chose qui passe moins par la tête, qui serait un sentiment.
Voilà. Elle en parle trop
mais
bien,
elle en parle
non,
trop bien.
Mais oui. Mais d'ailleurs, quand on lit ce film,
moi, j'en ai beaucoup parlé en même temps. Ça fait un an.
Excusez-nous.
Cohérent sur ce film qui est sorti un an.
J'ai senti qu'il y avait
passé autre chose. Une question,
des éléments de langage. Bah, c'est-à-dire que non. Bah, les Césars, c'est demain. Oui. Quand on lit un rôle comme celui-là, est-ce qu'on y sent le potentiel?
Pas du tout.
Voilà.
Ah non, pas du tout. J'ai une discussion comme ça avec mon ami qui me dit mais t'as dû penser à ça quand t'as tourné. Je dis mais absolument pas. Déjà comment moi vous avez cité mon parcours, je pouvais me dire je vais faire un. Ce film là, ça je pense que c'est un César. Je jamais pensé une chose pareille, franchement.
Est-ce que vous avez déjà écrit votre texte de remerciement?
Bien sûr, je vais vous le faire.
Ah.
Chère Isabelle Huppert, tu pensais l'avoir. Et oui, les sondages en politique, c'est comme les Césars.
Mais donc,
il ne faut pas les écouter.
Au moment où quelqu'un vous appelle et vous dit bah t'es nommé, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, en fait, je savais quand se passaient les nominations. J'étais chez moi. Et puis j'ai reçu un message, alors j'ai allumé les télés d'infos là, et j'ai vu en bandeau là, ça c'est important,
ouais,
en bandeau le truc, ouais. Avec mon nom à côté d'Isabelle Huppert, Cotia et tout. Alors, c'est marrant parce que théoriquement, tu te dis que il n'y a pas de vérité dans cette chose-là. Mm-hmm. Comparer deux films, c'est comparer une carpe et un lapin, quoi, s'en fout, et deux actrices. Mais il y avait quelque chose d'assez... réjouissant. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout cérébral que je me suis dit, oh bah quand même, c'est chouette. Enfin, oui, ça m'a plutôt Je trouve ça plutôt sympathique.
Et comme alors,
oui, j'ai passé ma soirée d'abord vraiment parce que je le partage. Je le partage avec Justine et Melville Poupeau qui est nommé et Vincent et tout ça. Parce que je suis certaine de pas l'avoir. Enfin, Isabelle Huppert, c'est un sphinx, quoi.
Si vous la poussez dans l'escalier, il y a moyen.
C'est bien, je songe de plus en plus. Oui, mais non, mais après, petite posthume, ça va prendre encore plus de. Non, il n'y a pas de.
Bon, ben, résultat, voilà. Demain soir, en tout cas, Virginie Efira est avec nous. Victoria aussi, puisqu'elle est en DVD, de Justine Triet. Disponible déjà chez tout le monde. Hein. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life. Same scene, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you. Together, nous dit Al Green.
Ah oui, c'est je suis trop bien ici entre mes deux blondes préférées d'amour de la vie. Que, voilà.
On est là aussi.
Oui. Oui, car pour entourer Virginie Efira, il y a qui, Alex Vizorek?
Eh bien, il y a André Manoukian, comme vous l'avez entendu. Il y a Guillaume Meurice, qui a l'élégance de ne pas parler tout le temps. Et il y a Clara Dupont-Monod, qui a juste l'élégance.
Voilà. Et qui est brune. Désolé, André.
Alors, étant donné que la rédaction de France Inter dit énormément de conneries dans ses journaux, on va tout remettre bien à plat, parce que nous, on a bossé.
Fact-checking.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
François Bayrou a donc proposé une alliance à Emmanuel Macron qui l'a acceptée.
Deux hommes, une alliance. J'espère que la manif pour tous ne s'est pas sentie humiliée.
La NASA a annoncé la découverte de 7 planètes rocheuses hors du système solaire, dont 3 seraient habitables.
Alors attention, parce que je vous rappelle que la planète sur laquelle vivent Éric Zemmour, Henri Delesquin et Christian Estrosi est considérée comme habitable, elle aussi.
Il y aura des brèves?
Bien entendu, car la brève ne s'allie avec personne, elle se présente.
Oh, le bon.
Et la brève est imbitable, ça tout le monde le sait. François Bayrou s'est donc uni à Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai qu'ils font un beau couple. Et si ça se trouve, ils vont bientôt faire la une de Paris Match aussi. Ça, c'est beau.
Mais cette non-candidature de François Bayrou a surpris tout le monde.
Et oui, à commencer par l'éditorialiste de BFM TV, Rutel Krief. Elle s'est déjà trompée sur le renoncement de François Hollande. Elle s'est ensuite trompée sur la victoire de François Fillon à la primaire. Et écoutez-la quelques minutes avant l'annonce de Bayrou.
Moi, j'ai posé cette question à certains proches en leur disant « Mais il y va pour aller au deuxième tour ou pour exister ?» Il y aura aujourd'hui un point de départ et on ne sait pas quel est le point d'arrivée.
Je vous coupe, Ruth, puisque François Bayrou, vient d'arriver à son pupitre.
Oui,
déclaration de candidature.
Écoutez bien, Ruth, ce qu'il va le dire, parce qu'il va le dire. Et après, elle nous dit ça, évidemment.
D'abord, un mea culpa officiel. Soyons clairs.
On le fait ensemble.
Voilà, heureusement que Rutel Krief n'est pas médecin.
Bayrou toujours. Il y aurait beaucoup de morts. Bayrou toujours, c'était le sujet majeur des matinales radio.
Oui, Nadine Morano était invitée chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC et elle a déclaré ceci.
Je cite, « Bayrou a vendu très peu de livres, c'est le signe qu'il n'intéresse pas les électeurs. »
Voilà, en 2022, Nadine Morano soutiendra Marc Lévy à la présidentielle.
Sur Europe 1, c'était François Baroin et il a utilisé cette métaphore.
François Bayrou, c'est un homme à la mer depuis de nombreuses années. Il est sur une embarcation où il n'y a plus de moteur, plus d'essence. Et au fond, c'est une triste destinée. Et c'est d'une certaine manière, il s'est abîmé dans tous les sens du terme. Il échoue aujourd'hui sur une plage qui n'est pas de sable blanc, mais de galets.
Ça, c'est bossé à l'entraînement. Il échoue sur une plage de galets. Emmanuel Macron dément les rumeurs d'une relation entre François Bayrou et une plage de galets.
Politique toujours avec ce coup de théâtre.
Oui, Jean-Vincent Placé a déclaré qu'il soutenait Benoît Hamon.
Oh là là là, ça, c'est un premier pas peut-être décisif, mais enfin, personnellement, j'attends surtout fébrilement de savoir pour qui va voter Emmanuel Coste.
On pourrait redistribuer les cartes dans l'autre sens.
Complètement. France toujours, de nombreux lycées ont été bloqués en Île-de-France par des lycéens voulant protester contre les violences policières après l'affaire Théo.
Oui mais non les jeunes, c'est pas malin ça, parce que si vous ratez les cours, vous n'aurez peut-être pas votre bac et c'est peut-être vous qui serez policier dans quelques années. Alors attention.
International à présent, pour aider les réfugiés qui arrivent dans le pays, l'Allemagne a mis en place des cours de séduction. Le thème de la leçon, comment tomber amoureux en Allemagne.
Je vais m'inscrire parce que peut-être si je la drague en allemand, j'ai une chance, c'est clair.
Nine. Sport. Franck Ribéry fait son arrivée sur Twitter.
Oui, et si on se fie à sa maîtrise du français, il risque d'être le seul capable à faire 141 fautes dans un tweet de 140 caractères.
Astronomie, la NASA a annoncé la découverte de 7 planètes rocheuses hors du système solaire.
Et chapeau, ce sont 3 chercheurs belges qui ont fait cette découverte de l'Université de Liège, grâce à leur expertise bien sûr, mais à un petit coup de bol.
Pourquoi vous dites ça?
Eh bien, c'est expliqué dans Le Soir, donc journal belge. Il dit ceci, ouvrez les guillemets, on était en train de régler notre télescope alors qu'on devait le démonter. On s'est dit que c'était pas bête d'observer une dernière fois l'étoile Trappiste 1 et c'est alors...
Et que bim quoi.
Et bim. Ah ouais. Qu'on a scruté, on a vu un spectre avec une tronche vraiment bizarre. Fermez les guillemets. C'est Gaston Lagaffe dans l'espace.
C'est vrai. Allez, une brève.
Oui. Oh, pour dire que les Français sont pas mieux que nous. Haute-Loire, il est poursuivi en voiture par le pilote de rallye qu'il venait de cambrioler. Pas de bol, on ne le répétera jamais assez, choisissez bien vos cibles.
Vous êtes sur France Inter avec Virginie Efira.
Ou piquez-lui sa voiture, au moins.
Premier sujet avec vous, Virginie. Pourquoi détestons-nous les politiques? La question est à ce point brûlante que les presses de Sciences Po publient l'ouvrage de 2 professeurs qui proposent des explications sur ce thème, parce qu'il va bien falloir en sortir. En attendant, tous les témoignages vont dans le même sens.
Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui ne regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul...
Extrait de Pulp Fiction, évidemment, version française, donc... Ça passe moins bien.
Ça passait.
Alors, Virginie Efira, j'ai lu que vous veniez d'obtenir la nationalité française, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que
tout
vous...
en gardant la belge.
Ah voilà, parce que vous vouliez voter, alors vous êtes contente de voter cette année, ça? Vous avez bien fait toutes ces démarches.
Mais je continue de penser quand même que ce sera quelque chose. Enfin, je veux dire que ce sera important d'y aller, quoi. Ouais.
Donc là, ça va, vous êtes contente de l'avoir fait pour justement cette année, quoi. C'est... Vous voyez clair, là. Vous voyez où vous allez aller
si
ou quoi?
Je vois très bien où je ne veux pas aller, ce qui est déjà en soi quelque chose. Mm-hmm. Si je vois clair sur où aller, ça se clarifie, mais c'est surtout par des choses qui tombent et des choses qui restent, mm-hmm. plutôt qu'un premier élan du cœur, certain et, voilà. Après, non, et exclusif.
Ce soutien à Macron, vous allez vous impliquer dans la campagne.
Vous trompez complet.
Je tente. Hein,
alors, il y a un ouvrage donc, publié aux presses de Sciences Po qu'on salue parce qu'il nous écoute, paraît-il, avec deux professeurs, Emiliano Grossman et Nicolas Sauger. Pourquoi détestons-nous autant nos politiques ? Est-ce que vous avez aussi une forme, peut-être pas de détestation, je trouve que le mot est fort, mais...
De haine.
Donc, vous avez une haine du politique. Voilà, ou une manque de confiance, une aversion.
Non, j'ai pas une aversion parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tout le côté les politiques ils se ressemblent tous et tout ça, l'espèce de choses complotistes, enfin là il se passe des
populistes
et tout ça, je trouve ça compliqué. Après je comprends assez bien cette chose-là où on a l'impression peut-être qu'il y a une forme de d'institution aussi dans l'histoire française qui est un petit peu marquée, qu'on viendrait toujours du même profil, qu'il y ait une forme de vanité qui passe avant. C'est sûr, quand on regarde un débat politique, il y a toujours, on a l'impression qu'avant les idées, il y a l'individu et c'est toujours que dès qu'il y a une idée contraire, on va, dès qu'il y a une idée qui pourrait être intéressante, parce qu'on fait partie d'un autre parti, bah, on la conteste immédiatement ouais. sans essayer d'étayer une pensée, parce qu'on a l'impression que, effectivement, que cette logique très juste de la démocratie qui fait que, mais qui a une réflexion à court terme et qui fait aussi qu'à des endroits où on attend quelque chose, c'est-à-dire le politique ou même le médiatique, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas des réponses à court terme ou des choses où on essaie de réagir de manière immédiate parce qu'on peut pas avoir ces bonnes réponses-là, que le politique aujourd'hui agit aussi avec une part d'émotionnel qui est assez déstabilisante. Et
une partie de ce que vous venez de dire figure dans cet ouvrage d'ailleurs.
Oui, j'imagine qu'il y a quantité d'autres choses.
Non, bien sûr, il y a plein de paramètres et notamment
le fait... rejeter le politique. Enfin, je veux dire, moi je crois très fort en ce que si tu t'occupes pas de politique, elle s'occupe de toi. Donc comment faire avec toutes ces choses-là, quoi.
Et notamment le fait que les Français sont particulièrement cyniques vis-à-vis de leur politique.
Pas
il y a toute
nous,
une explication
cas,
de ça dans le livre. Vous vouliez peut-être une remarque
Oui, juste préciser que la détestation marche aussi avec l'adoration. Parce que pourquoi est-ce que si on adore nos politiques, quand on se souvient de François Mitterrand ou de notre attente vis-à-vis de l'homme providentiel, le titre est un peu trompeur parce qu'il voit 50% du vert. Il y a 50 autres pourcents où notre lien passionnel avec la politique, qui est le luxe des démocraties, quand même, faut le rappeler, fait qu'on a autant d'adoration et d'attente que de détestation parce que déception. Mais s'il y avait déception, c'est bien qu'il y avait des attentes.
Oui, voilà. Oui.
Bah
oui.
Alors ça, je vous propose du coup de rajouter un chapitre.
Voilà.
Parce que, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Bon. Je vous renvoie les presses de Sciences Po. Hein, pourquoi détestons-nous autant nos politiques où tout est extrêmement détaillé et sourcé avec plein d'explications. Et donc, entre autres, ce qu'on vient de dire et le cynisme des Français. Oh, c'est Français, je vous jure. lui, il est arménien, donc c'est pas grave, André Manoukian.
Vous avez vos papiers, André ?
J'ai joué de la flûte. J'ai joué du doudouk. C'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. Et vous savez, mon attachement aux voix... Et là, s'il fallait traduire la volupté en musique, eh ben, ça serait sûrement la voix de Diana Krall qui serait l'interprète idéale. Et pourtant, c'était pas gagné. Diana Krall, cette grande fille blonde et canadienne, avec son air un peu emprunté à son début, avait plutôt l'attitude austère d'une fille de pasteur derrière son clavier, il faut le dire. Sauf que ses cantiques étaient terriblement païens. Elle ne chantait que des torch songs. Une torch song, Alex, c'est pas une chanson qu'on chante quand on est torché, hein, je vous l'ai dit. C'est une chanson d'amour cramé, Virginie, quand c'est foutu. Il y en a toujours un des deux qui se roule par terre et qui dit s'il te plaît, s'il te plaît. Par exemple, ne me quitte pas, c'est une torch song. Par exemple, Virginie, faisons l'amour avant de nous dire adieu, c'est une torch song. Aussi, mais un peu moins classe, on va dire. Hein ? Alors donc, voilà que Diana Krall chante des chansons d'amour torrides et qu'elle a un air un petit peu de... Bah, elle a un petit peu un air de Clara Dupont-Monod, on va dire. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf qu'elle est blonde.
Très bien. Elle est hautaine.
En fait,
très jolie, je crois.
C'est ça, exactement. Diana Krall n'est pas une aguicheuse, une de ces filles faciles au clin d'œil racoleur ou vibrato larmoyant, une de ces trémousseuses de glotte, une crooneuse de bas étage qui ouvre si grand la bouche qu'on lui voit jusqu'au fond du vagin. Non, elle est plutôt dans la catégorie janséniste. Son truc, c'est l'understatement. Les standards de jazz, ces formidables chansons d'amour intemporelles, parlent d'elles-mêmes. Pas la peine d'en rajouter, c'est vrai, quand le texte est beau, on va pas en mettre une couche. Diana Krall a conservé de sa timidité l'art de dire beaucoup en parlant peu. Un peu le contraire de moi, quoi. C'est pour ça que je l'aime, je crois, Diana Krall. Son piano est irréprochable. Elle swing tranquille. Elle dit l'essentiel dans ses solos. Elle les construit patiemment, méthodiquement, en chevauchant crânement son tabouret de piano. Sa longue chevelure blonde balayant ses reins au détour d'une syncope. Ah, l'art de la syncope, tout l'esprit du jazz. Vous entendez un temps fort, tac, que tum, que tac, que tum, et tout d'un coup la syncope arrive, tac, que tum, cac, cac, cac. Vous avez vu comment ça vous prend au cœur?
Ça
vous a pas pris? Cac, 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 le truc qui est en l'air. De même que vous attendez une résolution d'accord et elle ne vient jamais, parfois même pas à la fin. C'est l'art du teasing. Je pose une tension, j'excite, mais jamais je ne résous. La métrique ne sert qu'à retarder le système, qu'à dérégler la machine trop bien huilée pour qu'elle vous affole soudain. L'affolement, dans les chansons de Diana Krall, il vient tout d'abord de son timbre, grave, presque masculin. Et vous savez combien l'ambiguïté vocale garçon-fille joue dans la séduction des masses. Les garçons qui chantent comme des filles, produisant le même effet sur les filles que les filles qui chantent comme des garçons sur les mecs. Vous m'avez compris ?
Oui, oui, je suis
la
d'accord.
La grosse bouche.
Il est bête.
La grosse boule d'amour de Platon, l'être à deux têtes et huit membres coupés en deux par les dieux, n'a pas fini de faire parler d'elle. Cette voix grave, Diana Krall la pose cash, sans fioriture. Elle n'a pas besoin d'en rajouter parce qu'elle est pianiste en même temps que les réponses, les enjolivements, les ornementations, les variations, les appoggiatures, les arabesques qui se sentent obligées de se faire certaines divas pour prouver qu'elle maîtrise l'art suprême de l'improvisation. Elle s'en tamponne, Diana. Elle s'en contrefou, elle n'a rien à prouver. Elle est musicienne, alors il suffit qu'elle envoie et ses 10 doigts font le reste. Tourne autour, swing, soutien et syncope. Il y avait Nat King Cole chez les garçons qui jouait suave de la voix et des doigts avec sa pose de profil, ses cheveux gominés, son sourire qui exhibait autant de dents que de touches à son piano. Et il y a Diana Krall chez les filles. Depuis quelques albums, elle joue du charme et de l'impudeur contrôlée. Comme ces micro-inflexions qu'elle module à la fin d'un phrasé impeccable, comme l'air qu'elle va chercher pour éteindre un mot à la brésilienne, jouant du clair-obscur de ses sentiments et de nos nerfs qu'elle met en pelote parce que, telle Jessica Rabbit ou Rita Hayworth, Diana Krall est la femme fatale, l'inaccessible objet de nos amours inconsolables. Elle nous chante « Night and Day ». Only you beneath the moon and under the sun, where the near to me far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day. That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night. Under the height of me, there is oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and
Diana Krall, c'est dur de sortir de ce morceau, c'est ça, surtout hein. Quand on a ma voix perchée horrible.
Non, non, elle est jolie, votre
voix. Je n'ose plus parler, je vais parler comme ça jusqu'à 18h.
Il faudrait une fan meeting d'Emmanuel Macron, là, pour casser un petit peu.
Exactement. Oui, non, 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 non.
Ah, non, 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 non,
retenez-vous, nous sommes avec Virginie Efira. Virginie Efira qui est venue nous parler de Victoria.
Projet ! Voilà, excusez-moi.
Vous savez qu'elle a une super voix, Virginie Efira.
Mais oui, mais bien sûr.
Vous savez qu'elle chante super bien.
C'est vrai ?
Ben oui.
Non, je chante pas du tout super bien. J'aime bien chanter.
Mais si, vous étiez sous le karaoké l'autre jour.
Mais ça m'a rappelé quand je vous ai entendu, André, vos belles phrases et vos jolis mots, que quand vous faisiez ça à La Nouvelle Star, j'avais en même temps dans mon oreillette. Ouais. Est-ce que tu peux le couper, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le couper?
Vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Voilà. Ça y est, enfin, je suis comprise. Allez, il est 17h37. Sur France Inter, Virginie Efira nous présente le DVD de Victoria et elle sera demain soir au César. À côté de vous, il y a pas César, il y a Meurice.
Ouais. Alors moi, je vais vous parler argent public aujourd'hui. Ah. Voilà, l'argent public, donc qui permet de nous payer, nous, par exemple, hein, producteurs, chroniqueurs, techniciens, jusqu'aux stagiaires. Non, évidemment, je déconne. Payer des stagiaires, quelle idée à la con. Saint-Pierre Gattaz, pardonne-moi. Le privé n'a pas le monopole de la traite des jeunes, rappelons-le. Comme dirait Macron, en marche vers le Bangladesh. Et l'argent public, ça sert aussi à construire des trucs plus utiles. Des routes, voilà. Enfin, des routes, pas des routes Elkrief. Hein. Attention, j'ai dit des trucs utiles. Non, je le sais parce que je suis allé ce matin au forum annuel des travaux publics. Plein de gens, donc, qui, dès qu'ils voient une pâquerette, imaginent quel type de béton ils pourraient couler dessus. Voilà, un petit peu comme Xavier Dupont de Ligonnès quand il voyait sa famille au petit déjeuner. Et j'ai discuté, oui c'est un parallèle un petit peu hasardeux, et j'ai discuté avec des entrepreneurs, hein, notamment de Joseph Bonnier, c'est l'inventeur du béton armé. Qui était-il vraiment?
C'est un joli barbu, il est en photo là, à un moment là.
Et c'est un joli barbu qui a inventé le béton armé.
Voilà.
Ça on ne le savait pas déjà, on apprend des choses.
Joseph Bonnier, moi c'est un mec extraordinaire là.
C'est à lui qu'on doit tous les buildings moches en béton armé.
Et voilà, le côté négatif là, ça y est.
Non, excusez-moi, voilà, à qui on doit les jolis buildings en béton armé. Oh, la belle tour de la cité des Tarterets, hein, qui n'est pas sans nous rappeler la RDA des années folles. Oh, la beauté. Hein, je ne voulais pas casser l'ambiance. L'ambiance qui est donc à la promo du béton. Ce même monsieur avait même carrément convoqué Balzac pour vanter les louanges de Louis Vica, l'inventeur du béton tout court.
Balzac parle de Louis Vica. Ah. Il le cite dans son roman Le curé de campagne, en disant que Louis Vica, l'homme qui a fait avancer la science...
Ah, je me demandais, est-ce que c'était pas la comédie humaine du béton, quoi, c'est ça?
Le béton, c'est la vie, bien sûr.
Le béton, c'est la vie, mais la beauté. C'est un mélange de Bouygues et de Séguéla. C'est du Bouygues, là. C'est formidable, formidable. Alors, il y a plein d'autres choses formidables. Hein. Il y avait, par exemple, une super invention au Forum des Travaux Publics. On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans cette émission. C'est la cabine médicale. Plus besoin d'avoir un médecin sous la main. Tout est automatique.
On est dans une cabine et on a le médecin en face de vous, sur un écran, et qui va pouvoir faire toute une série d'examens médicaux et prendre des mesures physiologiques. Vous diagnostiquer vos pathologies.
À distance.
À distance, il peut même rédiger une ordonnance qui est imprimée directement dans la machine.
Mais alors l'objectif, c'est quoi? C'est de plus voir aucun humain dans sa vie et
non.
De vivre dans des petites cabines?
Non, mais tout je vois bien le... Il n'y a pas, certes, la cabine, c'est une machine, mais on met toujours de l'humain autour de la cabine.
Voilà, il y a de l'humain, mais autour de la cabine, c'est ça qui est important, mais c'est le gars du local technique, essentiellement. Donc si vous faites un AVC, il peut tenter de vous rebooter, mais ça marche pas super bien. Hein, le médecin, lui, il peut être voilà, 300 km dans son cabinet de travail à Acapulco, par exemple, s'il aime bien. C'est le progrès, hein, je vous rappelle, c'est l'investissement public. Mais attention, ça ne brise pas la relation patient-médecin, hein, ça l'améliore même.
La relation entre son médecin, même s'il est à distance, et son patient est assez forte, puisqu'on va beaucoup plus communiquer, on va beaucoup plus échanger.
Donc il y a plus d'échanges à distance qu'en
oui,
vrai.
Il y a plus d'échanges qu'en vrai, absolument.
On est sûr de ça, c'est vrai ça?
Et oui.
Évidemment, évidemment, on le sait, plus on est loin, plus on communique. Regardez Thomas Pesquet. On n'avait jamais entendu parler du type alors qu'il habitait à côté de chez nous. Là, il se barre à 400 km dans l'espace, chaque fois qu'il a une crotte de nez, on est au courant. Hein, voilà, c'est de l'humain, c'est du progrès, c'est de l'argent public, bien dépensé. Mais il y a mieux que Pesquet seul dans l'espace, tel un Jean-Vincent Placé en combinaison sous oxygène. Et il y a justement sur Terre le bar à oxygène, présent au Forum des Travaux Publics.
Ben en fait, dans l'air, on n'a que 21% d'oxygène et avec cet appareil, on peut voilà, respirer jusqu'à 80% d'oxygène, 85%. Donc
vous vendez de l'oxygène?
On vend de l'oxygène.
Vous vendez du vent, en fait?
Exactement, mais du vent pur.
Ouh, c'est beau aussi, ça. Du vent pur, on dirait du François de Rugy. C'est beau, c'est chouette hein, de savoir que l'argent public sert à vendre du vent. Il y a même plusieurs parfums de vent. Il y a le parfum, par exemple, Libido.
On mixe l'oxygène avec des huiles essentielles et des arômes, ce qui fait qu'on travaille sur les deux thérapies. Et le flacon Libido permet effectivement d'être à l'écoute de sa sexualité.
Ah, donc on respire l'oxygène et après on est à l'écoute de sa sexualité.
Le but recherché est celui-là.
Et ça marche?
Bah, j'ai pas encore essayé, mais on peut essayer. Mais peut-être qu'à 10h du matin, Libido choisirait peut-être pas ce parfum-là tout de suite.
Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Hein, ça, c'est un coup à se retrouver à quatre pattes dans un tractopelle de chantier. Parce que, non, quand même, l'essentiel du forum, c'est des ponts, des routes, du bitume, de l'acier, de la bonne grosse infrastructure. Mais on a le pognon pour ça en France, d'ailleurs. J'ai demandé à un des représentants de la Fédération nationale des travaux publics.
L'argent, il a pas disparu, il existe.
À chaque fois, on nous dit pour la protection sociale, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, par exemple.
Il faut le canaliser au bon endroit, parce que je pense qu'il y a quand même de l'argent qui se promène. Ça n'a pas bougé.
Ah, mais c'est ça, c'est une question de canalisation, alors.
Voilà, c'est canalisation. Tout à fait.
Ah, bah du coup, c'est les travaux publics.
Les travaux publics, tout à fait.
Et bah voilà, tout est une question de canalisation. Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel à l'hôpital public ou d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que c'est bien normal d'avoir payé les autoroutes avec de l'argent public et d'en avoir revendu la concession au privé? C'est vrai que parfois, on a quand même bien profond dans la canalisation.
Merci Guillaume Meurice, chronique réalisée avec votre argent également.
Bien évidemment.
Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Virginie Efira. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Virginie. Compte en commun les cheveux de José Bové, Isabelle Autissier et Nicolas Hulot, tous écolos. On s'était dit qu'ils contiennent tous des traces de cannabis. Un peu de cannabis. Mais non.
Même pas.
Non. Alors ça, on ne sait
oui,
pas.
J'allais dire,
on ne sait pas. En tout cas, ils contiennent de nombreuses traces de pesticides, de plastique et d'insecticides. C'est la conclusion tirée par l'association Génération Future. Et dans 50 ans, quel sera le constat sur un individu?
Oh, admirable! C'est le dolichocéphale parfait, très rare chez un Européen. Chapeau! Regardez, le frontal dorméen, l'occipital médache, le pariétal berbère et l'orbite égyptienne. Ça, l'orbite égyptienne, très rare. Ça. Quel dommage que les apophyses ne soient pas plus agressives. Mais quelle tête admirable, quelle faciès! J'espère avoir la chance de travailler un jour sur vous.
Francis Blanche dans Les pissenlits par la racine, ce qui va nous arriver beaucoup plus vite que prévu apparemment. Alors je vous détaille la chose. Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF, elle a 68 perturbateurs endocriniens détectés. Donc elle dit, mais je suis terrifiée, d'autant plus que j'essaye de manger bio. Je ne mets quasiment rien sur ma figure. Chez moi, j'ai pas de produits ménagers. Alors vous, Virginie Efira, est-ce que ça vous effraie? Vous dites, tiens, dans mon cas, ça se passerait comment?
Bah, vu que moi, je m'expose à tout, hein, sans crainte, je pense que j'ai rien sur la tête, quoi. Non, moi j'y vais, oui.
Ah, vous allez tout droit, vous, il y en a...
Oui. Ah bon, non, grande consommatrice de gluten, grande consommatrice de tout, là, oui.
Ah, mais c'est chouette, c'était une bonne vivante. Mais oui.
Non, mais enfin, je veux dire que c'est amusant d'ailleurs de constater que quelqu'un qui devrait pas du tout y être sujet y est totalement. On a l'impression qu'il y a aucun endroit protégé, quoi, et que si on se met à être un obsédé de la protection, de ça on peut pas et tout.
Oui, ça sert à rien d'être obsédé de la protection, parce que c'est en dehors, ça nous échappe, quoi, c'est ça.
Après, c'est quand même intéressant de se poser un tout petit peu la question de d'où proviennent les choses.
Oui, ça pose surtout cette question-là quand même, je pense. Oui, d'où viennent les saloperies qu'on a sur la tête?
Exactement.
Peut-être plus.
Oui, c'est vrai. Alors, José Bové, il dit il a découvert qu'il avait 3 PCB, 11 plastifiants, des pesticides, insecticides, alors qu'il n'a jamais utilisé sur son exploitation agricole d'insecticides, etc.
Ouais.
Non, alors il ajoute, parce qu'il suffit qu'il y ait une bombe d'insecticides qui a été passée sur la moquette du Parlement européen. On ne dira jamais assez comment c'est dangereux de siéger, quoi.
Ils n'ont pas pris des poils de moustache. On aurait trouvé d'autres saloperies.
Il y a quelque chose d'écolo en vous, Virginie Efira, vous êtes conscientisée à ça aussi? Vous faites des gestes réguliers ou pas, ou c'est venu sur le tard?
Vous pouvez dire non, parce qu'on sent que vous...
Oui, bah donc c'est
des gens qui me connaissent, qui m'écoutent, s'ils m'entendent. Je fais attention, ce que j'achète, machin, etc. Après, j'ai l'impression que c'est tellement plus global que ça. J'ai toujours l'impression que c'était plus quelque chose de politique et de global que chacun avec sa petite conscience personnelle. Enfin, là, je vais me faire détester.
Mais vous êtes découragé face aux industries, par exemple. C'est ça l'idée.
Oui, enfin, c'est ça. Alors, oui, bien sûr. Ou alors, allons vivre au sommet de l'Himalaya ou chez André.
Non, il y a plein de déchets au sommet de l'Himalaya.
Ah oui, c'est ça. C'est une chose beaucoup plus globale, quoi. Et on a l'impression que c'est des interdictions à bien plus haute échelle qu'il faudrait pour faire avancer les choses. C'est plutôt ce qui se passe dans les grands sommets où il y a des avancées. Mais enfin,
c'est l'excuse pour vous dédouaner, hein, Virginie.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que vous trouvez que c'est assez un...
Alors que je prends des grands bains, quoi. Voilà.
Comme vous avez le crash soir, Clara Dupont-Mono. On va passer tout de suite à votre chronique.
Mais oui,
Virginie Efira, puisque vous aimez les livres.
Oui.
Bonne réponse. Il y en a qui répondent non, elle ne fait pas de chronique après. Elle est un peu dégoûtée.
Il y a des gens qui répondent non. Je teste ça. Tout ce qui est lecture, tout. Culture, non, ça m'ennuie. La musique, André, je préfère te dire que j'aime pas ça non plus.
Parce que l'actualité, c'est cette campagne présidentielle dont on parle évidemment, mais qui tourne un peu sur elle-même, qui s'enlise, qui tâtonne, qui trouve pas la sortie. Et c'est pourquoi nous parlerons aujourd'hui de la figure du labyrinthe. J'aime cette figure du labyrinthe, moi Virginie Efira, parce que c'est la plus fondamentale dans l'histoire de l'humain. Le labyrinthe, vous la retrouvez sur des partitions, vous la trouvez en architecture, vous la trouvez en peinture, en littérature. Pourquoi ? Parce que le labyrinthe, il symbolise en fait la vie.
dans un labyrinthe, comme dans la vie, il y a des errances, alors pas seulement idéologiques, hein, Guillaume Meurice, ni sexuelles d'ailleurs, Alex Vizorel, mais nous errons tous, nous sommes conditions humaines qui cherchons une boussole pour se repérer. Et puis le labyrinthe, il est truffé d'impasses. Or, il faut savoir que l'idée de l'impasse, elle symbolise l'erreur. Donc l'erreur, on en fait tous aussi, et les politiques aussi, dire les anti-mariages pour tous ont été humiliés, passés chez Karine Le Marchand, ce sont des impasses, par exemple. Et bien sûr, dans un labyrinthe comme dans la vie, comme dans une élection présidentielle, plane l'idée qu'il n'y a qu'une seule issue et qu'on n'a pas intérêt à se planter. Alors évidemment, ce genre de symbolique, la littérature, elle adore. Et c'est pourquoi elle nous offre en fait plusieurs options. Vous avez la première option qui est l'option très noire. C'est-à-dire que le labyrinthe, en fait, c'est l'enfer. Il faut 9 cercles concentriques chez Dante dans la Comédie humaine, écrite en... La Comédie humaine. Dans la Divine Comédie, pardon, écrite en 1303, pour descendre une espèce de gigantesque entonnoir vers le centre de la Terre. Et puis, en matière d'obstacles, Dante, il en rencontre dans son labyrinthe. Il doit passer à travers les limbes, il doit longer des tombeaux, il doit éviter des démons. Donc, c'est quand même autre chose comme obstacle que l'emploi fantôme d'une brave châtelaine sartoise. Mais, heureusement, l'enfer se maîtrise. François Fillon en sait quelque chose et ça lui fait un point commun avec Umberto Eco, puisque Virginie Efira, peut-être avez-vous lu ce très beau roman qui s'appelle Le nom de la rose. Voilà. Et bien, au centre de... Vous avez le droit de dire non aussi, vous en faites pas.
Ah oui, mais je fais... c'est ça que je voulais dire, j'ai vu le film mais j'ai pas lu.
Le film est assez fidèle au livre, mais au centre en fait du roman se trouve un labyrinthe qui abrite une bibliothèque. Je sais pas si vous vous souvenez. Et cette bibliothèque, elle est classée, elle est en ordre. Et donc le message implicite de Umberto Eco, c'est quand même de dire que le chaos, ça se dompte. Donc c'est quand même assez optimiste. Et il y en a même qui vont plus loin dans l'optimisme en faisant du labyrinthe non pas un obstacle mais un passage. Que doit traverser Alice au chapitre 8 de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll?
Un labyrinthe.
Voilà. Bravo.
Ah,
Alex,
c'était facile, elle a dit avant.
Et il débouchera sur quoi?
Un labyrinthe.
Non, un château. Dommage.
Oui, la reine.
Un château. Et à ce propos, il y a un roman qui vient de sortir, qui est basé sur la figure du labyrinthe passage, et il s'appelle Arcane, et il est signé Pierre Bordage. C'est de l'héroïque fantasy. Alors, je sais, vous allez me dire, mais l'héroïque fantasy, c'est quand j'étais adolescent, Vous faites erreur, tous autour de cette table, vous qui n'avez rien dit.
On ne dit
mais
pas gna, c'est Alain Finkielkraut qui dit ça.
Voilà, taisez-vous. Mais en témoigne le succès de la série Game of Thrones, c'est bien que l'héroïque fantasy, c'est quand même ça, ça n'est pas que réservé aux ados et c'est extraordinaire de qualité. Moi, personnellement, je suis fan. Ce roman, en tout cas, il m'a tenu éveillé, il m'a fait dormir, en gros, quelques heures durant une poignée de nuit, tellement c'est haletant et vous ne pouvez pas fermer ce livre. C'est l'histoire d'un monde qui s'appelle Arcane, un monde où il n'y a pas de pauvres, où il n'y a pas de maladies, et il repose sur un gigantesque labyrinthe qui conduit au monde d'en bas, nettement moins reluisant. Donc en haut, on a les élus, en bas, on a les rebuts, et au milieu, on a un labyrinthe. Alors dit comme ça, ça fait la vision de la société française par Jean-Luc Mélenchon, mais non, c'est le labyrinthe à la fois comme porte et comme frontière, et à la fois comme passage et comme limite. Et il y a des guides qui s'appellent des torcherons, et non pas des torchesongs, qui chaque jour emmènent un groupe de personnes qui font le va-et-vient entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils connaissent de mémoire les méandres du labyrinthe. Il n'y a pas de plan qui existe. Ils ont appris les routes du labyrinthe depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont la version humaine en fait du fil d'Ariane. Rappelez-vous le mythe de Thésée. Ils sont la version humaine des petits cailloux du petit poussé, qui sont eux-mêmes inspirés du fil d'Ariane. Et pareil pour la bibliothèque du nom de la rose, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent le chaos. Et chaque fois qu'ils prennent la torche, les torcherons, ils se tournent vers les suiveurs en leur disant « Je suis un passeur, ne perdez jamais la flamme des yeux ». Et bien entendu, l'héroïne la perd de vue et se retrouve dans le noir complet, dans le labyrinthe. Et là encore, c'est un parallèle un peu avec nous, Français, à la veille de cette élection présidentielle de 2017. Je vous redonne les références. Arcane de Pierre Bordage est paru chez Bragelonne.
Merci Clara Dupont-Monod.
Il n'y a pas de mal.
On peut vous réécouter sur franceinter.fr où toutes les références sont indiquées.
Et je recevrai Pierre Bordage en 15 jours.
Ah
pour
oui,
tous ceux qui aiment l'héroïque fantasy.
Évidemment,
voilà,
le samedi.
Dans l'Amuse-Bouche à 19h20.
À 19h20, vous faites bien de le dire. Et André Manoukian, on le retrouve aussi le week-end.
Les routes de la musique à 17h.
Voilà.
Mais plus sur Canal+.
Il est libre. Et Virginie Efira, il y a un film avec vous qui sort bientôt fin mars, n'est-il pas ?
Tout à fait, Pris de court d'Emmanuel Cuho qui sort le 29 mars.
Ah, et vous jouez quoi ? Qu'est-ce que vous faites ?
Qu'est-ce que je fais là-dedans ? Il s'agit d'un labyrinthe aussi, en tout cas. Non, mais c'est une mère de... C'est une réflexion sur le courage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le courage, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. C'est une situation qui fait que tout d'un coup, est-ce qu'on va faire quelque chose ou on ne va pas le faire ?
Ah, c'est intéressant.
Et c'est une mère avec ses deux enfants, l'un qui va tomber dans une sorte de... dans une forme de délinquance assez impressionnante et qui va...
faire quelque chose.
Il ne faut pas tout dire. Et le courage, il en est question justement avec ce troisième sujet. Donc on verra le film fin mars, hein, c'est ça. Hein,
c'est ça.
Virginie Efira. Il y a 30 ans, le Larzac était le symbole de la contestation à la française, le foyer antimilitariste et pacifiste. Aujourd'hui, 715 soldats de la Légion étrangère se sont installés avec leurs familles. Les commerces tournent à plein, les écoles se garnissent et l'église est remplie. On n'entend plus crier mort aux vaches au pays des brebis, on n'entend plus que la voix de la Légion.
Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul.
Quelle belle chanson.
Le chant de la Légion, bah, c'est après bien la première fois que vous dites ça à propos de militaires. Les verts et blancs.
Je sais pas, les paroles sont percutantes.
Virginie Efira, est-ce que quand on vit en Belgique, on a entendu parler du Larzac comme foyer de contestation, faisant partie du bon gros cliché français ou pas tellement?
Bah, je vais autant la Belgique que vous. Hein. Enfin, ça fait un moment que je suis ici quand même. Hein. Donc,
c'était il y a 30 ans le Larzac.
Ah,
vous aviez
d'accord.
Quoi, 9, 10 ans.
Non, j'ai 39, ouais, j'avais 9 ouais, ans. Ouais. Non, c'était pas un grand sujet majeur à chaque dîner, quoi.
D'accord. Vous avez voilà. Mais et le côté un peu anti.
Ah, c'est con parce c'est bizarre,
que chez moi oui, énormément. Alors
pas.
Là beaucoup.
Ah, chez moi aussi. Non, mes parents ont même une terre.
Mais
une,
non, mais moi Larzac, ça Larzac, ça évoque José Bové, les démontages de McDo, les bazars pareils.
Évidemment, oui.
J'ai l'accent qui remonte quand je, tu vois.
Expliquez-nous, ils s'entraînent ou ils.
Non, alors ça fait un an,
militaire.
Il y a un camp militaire qui s'est installé, ils sont revenus s'installer là-bas. Alors ils ont fait Djibouti, l'Afghanistan, pour se retrouver dans le Larzac.
Non, mais déjà, à la base, le Larzac, c'est les gauchistes qui ont investi cet endroit pour empêcher l'armée de faire des essais.
Et 30 ans après, on les accueille et tout. Donc, on n'est plus antimilitariste, on n'est plus du tout pacifiste. Vous avez un côté antimili, pacifiste
plutôt ça que guerrier, quoi.
Préférez la paix à la guerre.
Vous avez le piège.
Vous avez des héros ou des héroïnes contestataires dans votre panthéon. Est-ce que vous avez ce côté-là aussi et des figures comme ça
On parlait de Che Guevara à table.
Rosa Luxembourg, Louise Michel.
Héroïne contestataire.
Ou la Schtroumpfette, enfin, un truc vraiment. On jugera pas.
Non, mais si.
Ou est-ce que ça vous plairait d'en jouer? Voilà.
Oui, enfin après.
Christine Lagarde, j'essaie de vous aider au maximum.
Non, mais c'est très très large d'un coup, donc ça va à plein d'endroits, quoi. De tout ce qui remettra en question, tout ce qui n'est pas la résignation et suivre l'ordre commun, ça peut se jouer pour ça. Moi, j'ai l'impression que tout est politique finalement et que quand on raconte une histoire, même dans l'intime, il peut y avoir quelque chose déjà qui. J'aime bien vous essayer de m'aider parce que vous faites des grands signes
d'accueil. Je vais vous dire, c'est pas mal ce que tu dis.
Virginie, on parlait dans l'intime.
Non, on parle plus du tout parce qu'en fait, je voulais dire, c'est, on a choisi ce sujet juste pour passer. Tiens, voilà du boudin. C'est passé, on passe à autre chose. Et puis voilà.
Et on est bien content parce que c'est le sketch. Non. C'est le sketch de fin d'émission.
Et vous avez vu comment je fais les transitions.
Vous tombez un jour où il y a un gros événement qui est arrivé en Belgique puisque la NASA a donc trouvé cette planète et c'est une équipe de Liégeois.
Ça, on en a parlé déjà deux fois, non?
Oui, mais c'est l'objet du sketch.
Oui. Et là, c'était vrai parce que vous avez dit dans le truc, là, ils ont vraiment parlé comme ça?
Tout est véridique. Et plus rigolo, c'est le groupe de chercheurs, il s'appelle Speculos pour Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool the Stars.
Mais c'est vrai, en plus.
Véridique. Et leur télescope s'appelle Trappist. Donc c'est un peu des rigolos. Comment ça s'est passé? Guillaume Meurice, journaliste à France Inter, se rend à Liège. Charline, Virginie et moi-même, nous sommes l'équipe de chercheurs.
Moi je dis Virginie.
Votre plus bel accent liégeois.
D'un coup.
Alors, expliquez-nous, comment avez-vous fait cette découverte?
Ouf, tiqué un fait.
Oui, ça s'est passé au soir, juste avant de souper.
Oui, parce qu'on venait de faire une petite soquette, parce qu'on a fait une dure la veille.
Alors, attendez, une soquette, c'est sexuel?
Mais qui parle ensuite, hein? Non, pas du tout, hein, que c'est une sieste.
On devait démonter notre télescope, et là, je me dis, est-ce que je jetterai pas un œil une dernière fois?
Exact. Il comprend rien. Il y a son œil sous le télescope, moi je lui demande qui est l'ouvert, allez.
Et là, on le voit devenir blanc comme une maquée.
Attendez, c'est pas évident, hein, quand, parce que vous dites une maquée, donc.
Une maquée, c'est ça, blanc comme une voie lactée, si vous préférez. D'accord, français, mais il prend beaucoup de vocabulaire, quand même.
Et là, je vois un point lumineux de la taille d'une chic.
Moi, je me dis qu'il nous raconte des caravis.
Attendez, des caravis, quoi, c'est-à-dire?
Je pense qu'elle en a toutes ses frites dans le même sachet.
Pareil, je me suis dit, c'est pas possible. Il louche. Il a un œil qui l'immerte à l'autre.
Mais néni, hein, moi je vois une étoile, papa. plus grande qu'une noquette de beurre et autour cette petite raouette.
Rien qu'un petit idée, moi je suis déjà toute sauce.
Oui, ah ouais, bah qu'est-ce qu'on arrive
On se rend compte que c'est une découverte qui a cassé la baraque.
Attends, oui, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, ah bah qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a pris un bac.
Ah oui, ah, ça je connais, c'est un instrument de mesure.
Mais qui est bien celui-là de Nia, ta casier de bière.
Ah d'accord. Alors attendez, à ce propos, j'ai appris que vous vouliez baptiser les planètes avec des noms de bière trappiste.
Bon, en tout cas, pas contraire.
Mais comment vous allez procéder?
Bah on va toutes les goûter.
Chimie, Orval, Rochefort, voilà. Wesmar. En Belgique, on a tellement de bières que des planètes, on peut encore t'en trouver par paquet de 12. Hein.
Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a une idée des caractéristiques physiques de ces planètes?
Oui, oui. L'orbite mesure environ 52 millions de kilomètres.
Au repos.
Mais vous savez, en astrophysique, ce n'est pas la taille de l'orbite qui compte.
Oui, 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 d'accord, je comprends. Alors, on dit qu'il y aurait trois planètes dans une zone habitable. Qu'est-ce que ça indique précisément?
Bah, c'est-à-dire qu'on a un bon espoir d'y trouver de l'eau, hein.
C'est bien la première fois qu'on a l'espoir de trouver de l'eau quelque part.
Bah, oui, un jour on trouvera de la gueuse, hein, c'est vraiment la preuve de l'existence de l'intelligence humaine, hein, tu sais.
Voilà, un pays d'enfance.
Voilà, après, il faut reprendre. Merci Virginie Fira. Dites-moi, est-ce qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée sur Victoria et que vous rêveriez qu'on vous ait posée? Vous avez donné plein d'interviews au sujet de ce film, et puis est-ce que vous êtes dit, mais on m'a jamais demandé ça, tiens, c'est dingue.
Non, mais c'est comme quand on fait une interview, parfois on dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas demandé, que vous aimeriez bien qu'on vous demande, comme si moi, j'avais une grande volonté de dire, je veux absolument dire ça,
bah,
sur moi.
Jamais,
sur...
oui. Non, en fait, bah, non.
C'est bien, c'est honnête. C'est bien.
On est qu'on parle du Larzac.
Non, mais je suis. Non, non, ce qui va me tourmenter, c'est que j'ai pas trouvé mes héroïnes contestataires, quoi.
Bah, ouais. Ça va venir.
Ça, c'est la fin du... bah, ça va venir.
Nicole Croisille, pensez à Nicole Croisille. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert pour demain. Pour demain, Isabelle Huppert, ce sera nickel.
Ça, plus le fait que vous prenez des bains avec des ours blancs morts.
Non,
c'est fini pour moi. Parce que
c'est
fini.
Mais c'est arrêté là, avec mes chats.
Mais elle est honnête, Virginie Fira. Le DVD de Victoria est sorti de Justine Trier. Et puis, on vous verra demain au César. On est tous derrière vous. Merci, Virginie. Le mot de la fin avec cette question. Est-ce qu'en France, il y a encore des postes à pourvoir pour les chroniqueurs ou les acteurs belges?
Pour les Belges, j'en ai plus. Pour les Belges, j'en ai plus. Ça sent des tireurs au cul.